Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Toujours un plaisir de vous compter parmi nous, soyez la bienvenue. C'est fini, c'est fini. Je vais dire bonjour aux gens. Ok, regarde les gens ici. Tu regardes les gens là? Oui, c'est beau. Donc Néma vous dit bonjour. Hello, Templus. God bless you. So happy to have you with us this morning. Bonjour à la sœur Adriana. Que Dios la bendiga, hermana. Hello, Pastor David. God bless you. Your type of day today, a sunny day. Around 15 degrees today. But be careful, because Thursday, they're saying we'll have about 10 centimeters of snow for Thursday. So hopefully, you enjoy your day today. God bless you. Bonjour Pascal, bonjour Gabriel, bonjour Jean-Bernard, soyez tous trois bénis. Bonjour Sylvie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Jocelyne, bonjour Jacques. Que Dieu vous bénisse. Deux annonces importantes qu'on répétera bien sûr un peu plus tard. Vous avez eu la nouvelle comme quoi on a le droit d'accueillir des gens dans l'église. Donc les inscriptions ont cours actuellement. Il vous suffit d'avoir 12 ans et plus. Et vous nous appelez soit au numéro de téléphone de l'église au 514-273-8295. Sinon, vous nous écrivez au courriel de l'église. Et vous nous indiquez votre nom, votre prénom, un moyen de vous contacter, un moyen infaillible de vous contacter parce que une confirmation se doit d'être, une inscription se doit à tout prix d'être confirmée. Donc, c'est ça, vous nous écrivez, vous nous appelez ou vous nous écrivez au courriel de l'église, secrétariat eajc@commercial.gmail.com. Et il faut nous donner le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. La deuxième annonce est que jeudi soir, à l'instar de ce que Jésus a fait le soir de Pâques, on va prendre la Sainte Cène jeudi soir. Certains pensent que c'est le vendredi, mais le vendredi, Jésus est déjà, le soir venu, Jésus est déjà dans le tombeau. Donc, si on veut être concordant avec les Écritures, donc c'est le jeudi soir que Jésus a pris son dernier repas avec les 12. Donc jeudi soir, on va avoir notre réunion toute simple, quelques minutes pour prendre la Sainte Cène tous ensemble. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Je pensais à vous ce matin. Que Dieu vous bénisse tous deux, j'ai prié pour vous. Oh, Rosie, 23 degrés, c'est une belle journée, ça. Content que les derniers cantiques vous aient béni, Rosie. En fait, c'était plutôt compliqué pour nous parce qu'on a eu des semaines très chargées dernièrement. De mon côté, beaucoup de rendez-vous médicaux et puis Daphné, beaucoup de travail avec les quelques CPO garderies pour lesquelles elle travaille actuellement. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour pratiquer, c'est un peu moins facile dernièrement. Mais content que ça vous ait béni. Bonjour au pasteur Jovedan, j'espère que je prononce bien. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Guy. Hola hermana Susana. Bonjour Natacha. Bonjour Farley. Bonjour Marie-André. Bonjour Lucie. Merci beaucoup Pascal, c'est très gentil. Pasteur Jovedan, nous avons une église à Pointe-Noire. Une de nos églises est basée à Pointe-Noire. En fait, notre représentant pour l'Afrique est à Pointe-Noire, le pasteur Roger Ngoula. On œuvre là-bas depuis déjà de nombreuses années. Bonjour Nicole, très content de t'avoir avec nous ce matin. Bonjour Thérèse, tu es pile à ton heure habituelle, 8h28. Sois béni. Bonjour à ceux qui nous écoutent via la page internet de l'église. On ne voit pas vos noms apparaître, mais on tient à vous saluer. Certains d'entre vous sont venus me voir dimanche dernier pour m'encourager et me dire combien ils étaient bénis par nos partages matinaux, comme quoi ça les a encouragés tout au long de cette année. Et puis vos propos m'ont aussi béni, donc que Dieu soit avec vous. Bonjour Alex et bonjour à ton soleil. J'aimerais juste te rappeler, comme je l'ai dit au pasteur David tout à l'heure, que jeudi, on parle de peut-être 10 à 12 cm de neige. Je dis ça juste comme ça, là. Juste pour faire de la conversation, pour meubler le temps, là. Il nous reste encore 2 ou 3 minutes avant qu'on commence. Donc, pour meubler un peu l'espace-temps, je voulais juste te dire comme ça qu'il se pourrait qu'effectivement jeudi 1er avril, et c'est pas une blague, c'est pas un tour, jeudi 1er avril, on devrait avoir entre 10 et 12 cm de neige. Et je regarde directement dans la caméra pour bien te regarder droit dans les yeux, Alex. Mais que Dieu te bénisse, hein? Qu'il te fortifie, qu'il t'encourage, qu'il te remonte le moral après ces quelques nouvelles déstabilisantes, assurément. Bonjour Didier. Bonjour Marie-Huguette. Et non, Daniel, c'est pas un poisson d'avril, mais je me rappelle quelque part dans les années 90, je donnais un cours à ce moment-là à l'église le 1er avril, un samedi. Et le boulevard, la rue Beaubien, on ne pouvait pas marcher sur les trottoirs depuis le métro jusqu'à l'église. Il fallait marcher en plein cœur de la rue parce qu'il y avait une trentaine de centimètres qui étaient tombés durant la nuit. Donc, 1er avril, grosse tempête de neige, quelque part, probablement 94, 95, quelque chose comme ça. Mais cette fois-ci, ça devrait être bien moins que ça. 10 à 12 cm avec de la pluie aussi. Donc, ça ne vaudrait même pas la peine de bien déneiger. Ça va fondre dans les jours qui vont suivre. Est-ce que je t'ai dit bonjour Didier? Je suis même pas sûr. Je parle là de la neige et j'en oublie. Bonjour Jimmy, Dieu te bénisse. En passant, mon père voudrait que tu le contactes après la bénédiction matinale, s'il te plaît. Quelques petits problèmes techniques qu'il aimerait parler avec toi. Donc, si tu pouvais l'appeler après la bénédiction matinale, ça serait très gentil. Je passe mon message comme ça. Il vient de m'écrire pour que je te passe le contact. Donc, si tu peux l'appeler après, ça serait gentil. Merci. Bonjour Yann. Tu as failli te déconnecter. Il faut pas. La bénédiction va bientôt commencer. Nicole, que tu l'écoutes en présentiel ou en direct ou en différé, je suis content de te savoir là. Fais-nous un petit coucou lorsque tu es en différé, juste pour garder le contact, ça nous fait plaisir. Bonjour Babette. Bonjour Andreas aussi, j'espère qu'il va bien, qu'il s'est bien et pleinement remis de son intervention. Oh, je suis bien solitaire, Sylvie, avec la neige. Il y a simplement moi et Gérard qui aimons la neige, dont ceux qui sont connectés ce matin, là. Tous les autres ont tellement hâte à l'été que ça m'en donne des chaleurs. Bonjour Chantal, bonjour Léo. Merci Jimmy. Alors on va prier et on va commencer. Bonjour Charlotte, que Dieu vous bénisse. Alors Charlotte aura été la dernière que j'ai saluée avant la bénédiction matinale. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous élevons ton nom, car nous savons que c'est toi encore aujourd'hui qui nous accorde le souffle de vie, qui nous accorde l'occasion de plonger nos regards dans ta parole, afin d'être enseignés, fortifiés et édifiés par elle. Je prie, Seigneur, que cette parole reçoive toute l'attention qui se doit, qu'elle puisse aussi, Seigneur, être ensemencée dans une terre qui a été bien préparée, afin que prenant racine, croissant, elle puisse apporter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors je bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, où qu'ils soient, où qu'elles soient, ici autour de Montréal ou à l'étranger. Je m'excuse. Que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée. Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur chacun d'entre eux. Instruis-nous, parle-nous, et qu'en toute chose, Seigneur, que ton nom soit béni. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vais m'équiper un peu. Juste m'excuser d'avance, il se pourrait que vous ayez du bruit pendant la bénédiction matinale. Ça vient de se calmer, mais disons depuis 7 heures, il y avait des rouleaux compresseurs, des bulldozers, des tracteurs, des poids lourds sur la rue devant la maison. Donc, j'espère qu'ils ne viendront pas nous déranger pendant notre bénédiction matinale. Alors, je lis pour vous le texte d'aujourd'hui. Ça reste dans Lévitique au chapitre 25, du verset 1 au verset 7, mais aujourd'hui on va étudier spécifiquement les versets 4 et 5. Vous savez qu'on est dans cette étude sur le jubilé. Et une partie du jubilé parlait aussi de mettre la terre en jachère, donc qu'on mettait une pause sur le travail de la terre pendant un an. Tout d'abord, la première année où on rentrait dans le jardin d'Éden, avec le peuple d'Israël, bien entendu. Puis après ça, aux 7 ans. Donc, par cycle de 7 ans, on laissait la terre se reposer une année. Et lorsqu'on arrivait à la fin des 7 cycles de 7 ans, donc à l'année 49, à ce moment-là, on allait laisser la terre se reposer pour 2 ans, soit l'année 49, qui est une 7e année. Et de surcroît, cela, l'année 50, qui est l'année du jubilé. Donc, et cette semaine, on étudie quelles sont les leçons qu'on peut tirer du principe de la jachère, du principe du repos de la terre en tant que telle. Et on a vu que ce repos-là impliquait de la foi par rapport au cultivateur. Le cultivateur devait faire confiance à Dieu, qu'effectivement il y aurait suffisamment de nourriture dans les mois et dans les années à venir, dans lesquelles on n'allait pas ensemencer ni récolter quoi que ce soit, que Dieu allait pourvoir de façon miraculeuse, indépendamment de notre pause ou indépendamment du champ qu'on a laissé en jachère. Donc, c'est cette notion de foi qu'on étudie dans ce principe de la jachère. Au cours des dernières semaines, on a parlé notamment de la rétrocession des terrains comme étant une question de communion entre frères et sœurs, de relation qui devait s'établir entre les frères et les sœurs. On a parlé aussi de la remise des dettes et on a utilisé cette thématique de la remise des dettes pour voir comment Dieu voulait qu'on opère dans la question du pardon les uns envers les autres ou nous envers ceux dont nous sentons qu'ils nous ont offensés. Et lorsqu'on parle donc de la jachère ici, on aborde le domaine important, le sujet important de la foi. Donc je lis pour vous dans Lévitique au chapitre 25 du verset 1 à 7 et je vais relire par la suite les versets 4 et les versets 5. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendrageras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. » Je reprends pour vous les versets 4 et 5. « Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui en proviendra ou ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. » Alors que Dieu bénisse sa parole. Alors quelques instants, tout simplement pour traduire dans des termes peut-être plus contemporains, pour expliquer de façon imagée ce que Dieu demandait au peuple d'Israël. Vous savez, comme on l'a dit hier, ce message qui est adressé à Moïse et qui va aller vers le peuple se donne 40 ans avant l'entrée à Canaan. C'est dans ce passage, ou dans ce moment plutôt, où Moïse va monter sur la montagne de Sinaï et il va recevoir les lois de Dieu, dont les 10 commandements. Pendant tout ce temps qu'il va passer dans la présence de Dieu, ça se passe à peine sorti, ou quelque temps après être sorti de l'Égypte. Mais bien entendu, avant que tout ce périple de 40 ans ne commence dans le désert avant d'entrer 40 ans plus tard dans la terre promise, la terre de Canaan. Et Dieu veut leur dire, voici comment ça va arriver, voici comment ça va se passer. Et ce qu'il leur dit dans le verset 4 et dans le verset 5, c'est qu'au-delà de la première année qu'on a vue hier, où vous entrez dans la terre promise, et puis vous ne travaillez pas, vous vous concentrez sur moi, vous déclarez une année sabbatique où vous m'adorez, vous cherchez ma face et vous comptez sur ma provision divine. De surcroît à cela, après avoir travaillé pendant 6 ans, la 7e année étant arrivée, vous recommencerez une question de repos de la terre. Donc par cycle de 7 ans, il y avait 6 années de travail et une 7e année où on reposait la terre. Et 2 choses étaient importantes. Donc la 7e année, on ne cultive pas la terre, ça veut dire qu'on ne laboure pas la terre, on ne prépare pas le champ, on n'ensemence pas, et assurément, puisqu'on n'ensemence pas, on ne récolte pas non plus les fruits d'un précédent travail. Mais de surcroît à cela, lorsqu'on ensemence ou lorsqu'on récolte plutôt, très souvent, il y a quand même une partie de la récolte qui tombe à terre. Et cette partie-là, étant tombée à terre, va quand même s'enraciner et porter un fruit l'année suivante. Et Dieu va dire même la semence qui est tombée de votre récolte de l'année 6, lorsque vous arriverez à l'époque de la récolte de l'année 7, je ne veux pas que vous y touchiez. Une vigne, lorsque vous la laissez en friche, même pendant un an, lorsque vous la laissez en jachère pendant un an, de façon toute naturelle, parce que le cycle continue, elle va quand même porter un certain fruit, assurément moins abondant que si la vigne avait été taillée quelques mois plus tôt, mais la vigne, de façon naturelle, va porter un fruit, même dans l'année de repos, même dans l'année de jachère. Et Dieu va dire que ce soit les fruits issus des semences qui sont tombées de votre récolte de l'année dernière, ou que ce soit les fruits donnés par la vigne que vous n'avez pas taillée sur cette année-là, je vous refuse le droit d'y accéder et de vous en nourrir. En fait, Dieu voulait que le peuple compte absolument sur lui pour cette septième année. Donc, pas de travail dans les champs et pas même récolter ce que l'ancien travail ou ce qui aurait pu être fait, l'investissement qui aurait pu être fait un an plus tôt lors de la sixième année. Et voici quatre points importants qu'on a pour nous ce matin qui vont nous permettre peut-être de se poser des questions. Est-ce que ça se pourrait que ma relation avec Dieu, quant à la notion de foi, soit bancale? Premièrement, Dieu va dire, je ne veux pas que vous travailliez et je ne veux pas que vous alliez ramasser les fruits de ce qui est tombé de votre ancienne récolte. Donc Dieu dit, je veux avoir l'exclusivité de votre provision. Je veux que de façon cyclique, je veux vous amener dans cette période où de façon cyclique, vous ne dépendez que de moi. Et pour nous, c'est aussi un même sujet ou un même défi. Pour le fermier, le cultivateur de l'époque, arriver maintenant dans la terre de Canaan et entendre que à tous les 7 ans, vous allez arrêter de cultiver et vous allez me faire confiance pour votre provision, c'est quand même challengeant, c'est quand même un défi pour le cultivateur. Et nous aussi, on est habitué à faire l'effort nécessaire pour pourvoir à nos besoins. On a pris très à la lettre ce passage et cette révélation de Dieu à Adam et à Ève après le péché où il va leur dire « L'homme mangera son pain à la sueur de son front ». Donc nous sommes habitués, pour la grande majorité de l'humanité, on est habitués effectivement à travailler pour avoir de quoi subsister. Mais Dieu va dire, arrivé à la septième année, je ne veux pas que vous travailliez. Assurément, pour nous aujourd'hui, ça ne dit pas de prendre aux 7 ans une année sabbatique. Je suppose que si on le faisait, il n'y aurait personne d'entre nous qui ne subsisterait au-delà de 7 ans dans une même entreprise. Prendre à tous les 7 ans une année complète sabbatique, je ne crois pas que votre patron vous le permettrait. Il a besoin de compter sur vous année après année. Toutefois, pour la question de foi, il se pourrait effectivement que le Seigneur nous amène dans des endroits où nous devons dépendre de lui. C'est arrivé régulièrement dans ma vie. Particulièrement, oui, et puis la dimanche, quelqu'un est venu me voir en me disant que ça le bénissait, que je parle de la période où j'ai été malade, parce que ça donne un exemple tangible. Ça donne une image tangible à des expériences que nous tous pouvons aussi traverser. Lorsque je suis arrivé face au cancer, je savais que ce cancer-là, il y a très peu de pourcentage de survie. Il y a très peu de pourcentage de personnes qui passent à travers. Dans ce cancer-là, habituellement, un médecin, dont mon chirurgien, puisque c'est une des sommités mondiales dans le sujet, ne dis jamais à quelqu'un qu'il est en rémission. Il me l'a encore répété il y a une semaine et demie, comme quoi j'étais effectivement en rémission, toujours en rémission et en bonne rémission. Mais ce moment-là où je suis tombé malade, en sachant toutes ces informations sur la gravité de la maladie, sur le peu de chances de survie pour ceux qui en sont atteints, ça me plaçait dans une situation où tout était hors de mon contrôle. Même si les gens disent on se bat contre le cancer, foncièrement, on ne fait pas grand-chose. Foncièrement, on subit des traitements qui sont assurément harassants, qui sont assurément très, très, très exigeants et très pénibles. Et ça, je le comprends. Mais à part se pointer à l'hôpital, subir la chose et souffrir de la maladie et souffrir des séquelles des traitements, foncièrement, je ne savais pas ce que voulait dire se battre contre la maladie. J'ai laissé tout ça entre les mains de Dieu, sachant que personnellement, je ne pouvais rien faire. Dieu nous amène parfois dans ce genre de contexte-là où nous ne pouvons ni avancer, ni reculer, ni aller à droite, ni aller à gauche. On est obligé de se tourner vers Dieu et de crier à lui. Et c'est là où une terminologie comme le terme « kara » en hébreu qui veut dire « invoquer » ou qui parle du cri d'une bête, où on se tourne vers l'Éternel avec tout ce qu'on a à l'intérieur, en toute sincérité, en toute humilité, sans apparat, sans déguisement, sans essayer de rouler des mécaniques, où on dit vraiment à Dieu tout simplement « Regarde Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Sans toi, je ne puis rien. » Et ces moments-là sont ces moments de jachère où on a d'autres, où nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers Dieu et de dépendre de lui, et de dépendre exclusivement de lui. Donc parfois, il provoque la jachère. Mais je dirais que cette dépendance exclusive de Dieu ne devrait pas se limiter strictement à ces occasions où nous n'avons d'autre choix que de nous tourner vers Dieu. Ça devrait être dans la vie du croyant à tous les jours, 7 jours par semaine, 12 mois par année, 52 ou 54, je ne me rappelle plus, semaines par année. Ça devrait être heure après heure, instant après instant, circonstance après circonstance. Nous devrions dépendre constamment et exclusivement de Dieu. Malheureusement, très régulièrement, on reprend les choses entre nos mains. L'enseignement de la jachère et l'enseignement de la foi qui est appliqué dans le domaine de la jachère devrait nous amener à avoir une foi qui ne craint pas de donner l'exclusivité à Dieu. De surcroît à cela, donc non seulement ils rentrent dans la terre promise et Dieu leur dit « La septième année, vous ne travaillez pas et vous dépendez totalement de moi. » Mais il est en train de dire aussi « Vous ne travaillez pas et vous me faites confiance. » Le cultivateur qui entend ce que Moïse va leur transmettre comme message va tout de suite faire un calcul dans sa tête. « Mais si je ne cultive pas la septième année, ça veut dire que durant cette septième année, je dois manger la récolte de la sixième, mais la récolte de la sixième doit aller jusqu'à me nourrir pendant la septième, pendant la huitième année, et doit arriver jusqu'à ce que je puisse enfin récolter cette huitième année, et cette récolte se passe en fait la neuvième année. C'est comme si la récolte de la sixième année doit pourvoir aux besoins d'environ 2 ans et demi. C'est stressant. C'est stressant d'arriver dans cet endroit et de dire « le futur n'est pas entre mes mains ». Et c'est une bonne chose que le futur ne soit pas entre nos mains et qu'il soit plutôt entre les mains de Dieu. La foi que nous enseigne ce principe de la jachère, ou cette foi qu'impose le principe de la jachère, cette foi qu'impose l'exclusivité de notre confiance en Dieu, ça impose aussi une foi qui ne craint pas l'avenir. Une foi qui est capable de dire à Dieu, « Seigneur, ce que tu fais est parfait. » Que ce que tu fasses dure 5 ans, que ce que tu fasses dure 10 ans, que ce que tu fasses ne dure que 2 semaines, « Seigneur, ce que tu fais est parfait et je te fais confiance. Un peu ce que j'ai eu à dire le fameux matin qui a suivi le diagnostic de cancer, où j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est correct. Que tu me gardes ici-bas ou que tu m'amènes vers toi, que tu m'amènes à la maison, Seigneur, c'est correct. Et c'est important d'arriver à ce moment-là avec Dieu. C'est un point de non-retour. Parce que même lorsque les choses vont mieux, même quand les choses se rétablissent, vous ne pouvez pas retourner vers le Seigneur et dire, « Bon, mais maintenant que ça marche, maintenant que ça fonctionne, maintenant que tout va bien, que tout est apaisé, je vais reprendre un peu de contrôle. » Cette vie où vous dépendez de Dieu, cette vie où l'exclusivité de votre attention est mise entre les mains de Dieu, perdure dans le temps. C'est vrai qu'avec les mois et les années qui passent, l'être humain est un être d'habitude. L'être humain rentre dans une certaine routine. Et il est vrai que régulièrement, on doit se secouer. Je dois me secouer. Et le Seigneur utilise certaines frayeurs à droite ou à gauche, certains petits malaises que je peux ressentir à l'occasion pour allumer une veilleuse en disant « Oh, est-ce que ça se pourrait que… » Et là, je retourne vers le Seigneur en disant « Non, non, Seigneur, je ne crains pas la goutte d'eau qui m'est tombée du ciel. Je ne crains pas le vent qui est en train de se lever. Je ne crains pas les vagues qui sont un peu plus fortes actuellement. Je t'ai déjà vu au sein de la tempête. Je t'ai déjà vu dans la pire tempête de mon existence et je te fais confiance. Donc, je n'ai pas peur de l'avenir. » La jachère va nous enseigner donc à ne pas craindre de donner l'exclusivité à Dieu et de ne pas craindre pour l'avenir. Mais la jachère imposée par Dieu va aussi exiger des décisions de notre part. Oui, décision de donner l'exclusivité à Dieu, décision de ne pas craindre l'avenir, mais de surcroît à ça, et c'est ce principe de « tu ne récolteras pas même les fruits qui sont tombés au sol et qui, de façon aléatoire, ont poussé. » Vous savez, c'est cette moisson que tu as fait il y a un an et dont une partie du fruit est tombée au sol, qui s'est enracinée et qui porte maintenant un fruit un an plus tard. Je ne veux pas que tu y touches. Pourquoi Dieu dit-il une telle chose? Parce que l'homme est comme il est et l'homme aime prévoir et l'homme a cette tendance à essayer de se trouver. Je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi. L'homme cherche toujours à prendre l'occasion de se trouver un moyen de se défiler un peu. Un peu ce principe selon lequel, oui Seigneur, je ne vais pas te désobéir, mais je vais te donner un coup de pouce. Dieu va dire, je ne veux pas que tu touches à ce qui est tombé de ta récolte de la sixième année au sol et qui, de façon inopinée, a porté un fruit. Je ne veux pas que tu y touches. Pourquoi? Parce que certains auraient pu faire attention à la sixième année de laisser tomber une partie de la récolte au sol, afin qu'arrivé à la septième année, ils puissent récolter, si ce n'est une récolte officielle avec le labourage de la terre, l'ensemencement et tout ça, mais récolter ceux qui, de façon aléatoire, étaient tombés au sol. Et dimanche, j'expliquais que certains d'entre nous, on aime donner un coup de pouce au Seigneur. On aime, en dépit de ce qu'on dit avoir la foi, en dépit de ce que nous affirmons avoir donné l'exclusivité à Dieu, en dépit du fait qu'on ait dit nous faisions confiance au Seigneur et qu'on ne craignait pas pour l'avenir, mais de façon innocente, entre très grands guillemets, on a laissé tomber une partie de la récolte, puis on se dit, ben si Dieu n'intervient pas à ce moment-là, j'aurai quand même ce petit pécule, j'aurai quand même cette petite récolte que je pourrais aller moissonner le temps venu. Dieu ne voulait pas que nous l'aidions par des moyens humains. Et lorsqu'il m'a amené dans cette phase de la maladie, non seulement lorsqu'on donne à Dieu l'exclusivité, mais il nous amène à expérimenter aussi de ne pas pouvoir avoir de moyens alternatifs, palliatifs face à lui, de ne pas pouvoir pallier à ses traitements ou à ses non-traitements, de ne pas pouvoir pallier à sa volonté et à ses exigences. Et la foi ferme et la foi solide ne cherche pas de moyens palliatifs. La foi solide en Dieu accepte de faire confiance totalement et exclusivement en Dieu en disant, Seigneur, j'ai compris, je ne t'aiderai pas. Tu m'as demandé une foi complète, une foi absolue en toi. Alors voici ce que j'amène. Et je sais, ça c'est une chose demandante pour nous tous. On est élevé depuis notre tendre enfance. On est élevé à devenir indépendant. On est éduqué pour devenir indépendant. On est éduqué pour travailler à la sueur de notre front et s'en nourrir. On est élevé, on est éduqué pour ne pas avoir à demander de l'aide à droite ou à gauche. Mais Dieu veut nous amener parfois dans ces moments où nous apprenons à dépendre de lui parce que nous n'avons pas d'autre choix, mais que par la suite, ça devienne une décision. Le fait de ne pas labourer, de ne pas ensemencer et de ne pas récolter l'année 7, c'était effectivement une obéissance. Mais le fait de ne pas revenir labourer ou plutôt moissonner les fruits parallèles de la récolte numéro 6, ça c'était une décision délibérée. Je vois les fruits qui poussent, je vois la vigne qui porte quand même du fruit et Dieu me dit ne va pas toucher là-bas. Honore-moi par la foi que tu vas manifester en n'allant pas chercher les fruits de la récolte numéro 6 maintenant que tu es rendu à l'année numéro 7. Laisse-les là, laisse-les comme une offrande en mon honneur. La confiance que tu me portes, l'absolue foi que tu portes en moi, c'est un honneur à mon égard. Et voilà pourquoi à ce moment-là, ça devient une décision réfléchie, délibérée. Seigneur, je reste fidèle à ce que tu me demandes et je continue à avancer sans chercher, sans dépendre de moyens palliatifs. Alors, arriver à ces moments où tu sais que ta foi va être demandée, n'essaie pas de tromper Dieu, n'essaie pas de jouer dans le dos du Seigneur, n'essaie pas de faire comme s'il ne te voyait pas. Dieu sait très bien si tu lui fais totalement confiance ou si tu es en train de développer un petit trésor caché quelque part vers lequel tu pourras courir au premier moment de frayeur et au premier moment de tempête ou au premier moment de disette ou au premier moment où la récolte, tu sais qu'elle doit venir et tu vois le grenier qui descend, les grains dans le grenier qui sont en train de s'amenuiser. Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu ou est-ce que tu vas te rabattre sur ce qu'il t'a dit de ne pas toucher? Parce que ça, c'était un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Ça voulait donc dire que la récolte de cette année-là était totalement à Dieu. Je n'y touchais pas pour honorer Dieu. Dernier point aujourd'hui, donc après avoir vu que la foi ne craint pas de donner l'exclusivité à Dieu, la foi ne craint pas pour l'avenir, la foi n'essaie pas d'aider Dieu par des moyens humains. Foncièrement, lorsqu'on disait que de ne pas aller cueillir le fruit de la sixième année ou les fruits subséquents de la sixième année ou les fruits aléatoires de la sixième année, lorsqu'on parlait de ça, on parlait d'un choix. Donc la foi se plie délibérément et complètement à Dieu. Une foi en santé, une foi vigoureuse, une foi à laquelle nous appelle Dieu est une foi qui se plie en tout état de cause, en toute réflexion absolue. J'ai réfléchi, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi réfléchie, délibéré, j'ai décidé que même si mes yeux ne voient pas, j'ai décidé que même si je ne vois pas le fruit devant moi, j'ai décidé que même si je ne vois pas la provision de Dieu qui s'en vient, j'ai décidé de lui faire confiance. Un choix délibéré et un choix complet. Regardons. La foi est un défi quotidien. Avoir une foi en santé, une foi active, est un défi pour toi et pour moi. Et chacun d'entre nous, peu importe là où on en est rendu dans notre cheminement, notre foi est éprouvée, notre foi est mise au test, notre foi est défiée par des choses qui sont propres à nous et des choses qui sont propres à la condition même de notre foi. Plus ta foi grandit, plus les défis sont élevés. Mais aussi plus tes victoires sont grandioses. Donc je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma sœur, que ce matin, tu n'aies pas peur de donner l'exclusivité à Dieu. Que ce matin, tu ne trembles pas devant l'avenir. Que ce matin, tu ne cherches pas à pallier à Dieu par des moyens humains. Et que ce matin, tu puisses te plier délibérément et complètement à ce que Dieu peut demander et à ce que Dieu peut exiger de toi comme manifestation de ta foi. Je prie que ta foi soit fortifiée, que ta confiance à Dieu soit fortifiée. Seigneur, j'ai prié effectivement que ma sœur, que mon frère prennent une décision délibérée, réfléchie et définitive à ton égard. Ce genre de décision après laquelle on ne peut pas revenir 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard pour dire « Seigneur, j'ai changé d'idée, je reprends les choses en main ». Nous ne voulons pas être un sujet de scandale auprès de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, te mépriser en revenant prendre entre nos mains le contrôle de nos vies. Nous voulons, Seigneur, tout mettre entre tes mains avec une absolue confiance que tu es bon, que tu es fidèle à ta parole et que tu vas pourvoir à chacun de nos besoins selon, Seigneur, ta promesse. Alors fortifie la foi de ma sœur ce matin. Tu vois ce par quoi elle passe. Tu vois la tempête par laquelle elle peut passer. Je te demande, Seigneur, fortifie ma sœur. Tu vois mon frère ce matin et tu vois les vents qui secouent sa barque. Tu vois, Seigneur, l'eau qui est peut-être en train de pénétrer dans la barque. Seigneur, tu leur as dit, on passe de l'autre bord. Alors je n'ai aucune crainte, Seigneur, que tu les amènes jusqu'au prochain rivage. Puisses-tu, Seigneur, les garder, les fortifier et faire en sorte que cette foi que tu es en train de fortifier dans leur vie, qu'elle puisse, Seigneur, amener cette paix incommensurable, cette paix, Seigneur, irréfléchie ou inexplicable, qui dépasse l'entendement, cette paix que j'ai effectivement pu expérimenter et qui est ô combien merveilleuse et salutaire. Alors je prie, bénis ma sœur, bénis mon frère, et qu'en toute chose que ta gloire soit juste pour toi et strictement pour toi. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, voici ce que nous avions pour ce matin. Simplement vous rappeler que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Vous pouvez appeler à l'église pour être là en présentiel ou nous écrire. C'est donc au 273-8295, 273-8295 dans le 514 ou l'adresse courriel secrétariat-EAJC. En un seul mot, pas d'accent, secrétariat-EAJC, @commercial.gmail.com. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, un numéro actif, si possible un cellulaire, c'est peut-être plus simple pour qu'on vous envoie un texto par la suite, et aussi une adresse courriel si vous en avez une, pour qu'on puisse effectivement confirmer votre présence pour dimanche. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas. Les premiers appels vont avoir lieu mercredi soir. La deuxième vague d'appels va avoir lieu vendredi matin. Les inscriptions terminent vendredi matin. On a 100 places maximum. Les places se remplissent graduellement. Donc, ne tardez pas, appelez-nous. Donc, quelques salutations. La dernière personne que j'avais saluée, c'était la sœur Charlotte. Bonjour à Julie. Qui d'autre? Bonjour à Maggie, bonjour à Denise, bonjour à Nani Bilbao Florian, bonjour à Rachel et aux sœurs qui sont avec toi ce matin, bonjour à Virginie, bonjour à Andrés, à Samantha, j'aimerais juste dire à Hussein Guindo que le seul qui peut effectivement vous assurer la protection et le salut s'appelle Jésus-Christ. Et aucun marabout, aucun magicien ne peut faire quoi que ce soit pour vous. si ce n'est Christ, le salut ne se trouve qu'en lui. Et je prie que vous puissiez effectivement le rencontrer. D'ici là, excusez-moi, mais dans quelques instants, je vais effacer votre message qui n'édifie personne. Christ étant le seul et l'unique, qu'on célèbre même cette semaine pour être mort, ressuscité pour le salut de tout homme. Vous ne trouverez aucun salut, hein, si ce n'est qu'en Christ Jésus, mort et ressuscité, comme agneau de Dieu pour le salut de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Alors sur ce, je vous salue tous. Donc, appelez à l'église ou écrivez pour vous inscrire pour l'assemblée en présentiel ce dimanche. Sinon, on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.